dissonance.
Trois fois par mois, pendant une heure, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des voix dissonantes et de découvrir des parcours de vie qui portent un éclairage différent sur nos vies, nos luttes et nos espoirs.
Dissonance.
Joseph Fula sur Radio Sainte-Afrique.
Les 18-25 et même désormais au-delà des 18-30 ans constituent la catégorie qui s'abstient le plus, quel que soit le sport.
Une fois n'est pas coutume, la question de l'abstention n'est pas complètement au cœur du premier tour des régionales, mais elle reste quand même à 49,5%. Et ce chiffre-là, Raphaël, ne vous laisse pas indifférent.
Nous, on envisageait un taux d'abstention de 35%, qu'on confirme aujourd'hui. 35%, on l'a dit tout à l'heure, c'est un record historique. Hein, et on a une tendance à la hausse de l'abstention depuis 1983. 35%, ça représente à peu près 16 millions d'électeurs.
Pour ces élections de 2017, de nombreux médias se penchent sur le phénomène de l'abstention, s'interrogeant pour savoir si celle-ci est toujours un déficit démocratique ou plutôt un signe de vitalité politique. Les hommes politiques, eux, préféreraient que les gens se prononcent ponctuellement aux scrutins électoraux plutôt qu'au quotidien dans des grèves, des manifestations, des occupations, des nuits debout, des résistances actives. Alors que, pour certains abstentionnistes, la démocratie ne se situe pas dans le fait d'aller déposer un bulletin dans l'urne de temps en temps. Combien de nos dirigeants se contenteraient de ce geste, sachant que pendant leur mandat, ils auront une paix royale, pas de garde-fous. Hollande, en 2012, a été élu avec les voix de seulement 39% des électeurs inscrits. Et puis, il a fait ce qu'il a voulu. Loi travail, état d'urgence. Avant lui, ses prédécesseurs avaient agi de la sorte.
La veille des élections, il t'appelait son fiston. Le lendemain, comme de raison, il avait oublié ton nom. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou.
Aujourd'hui, nous allons entendre trois partisans de l'abstention, Jacques Ponce, Dany Joulier et Michel Julliard, acteurs engagés sur le long terme, dans leur réseau, leur groupe, leur collectif et au sein de leur vie personnelle. Ils sont de ceux qui pensent que faire de la politique, c'est agir au quotidien. Aujourd'hui, ils vont nous expliquer ce qui les conduit à utiliser ce moyen d'action qu'est l'abstention. Leurs propos seront accompagnés de textes d'Émile Pouget, de Fred Maurice, d'Élisée Reclus et de René Ponce.
Dissonance, témoignage d'abstentionnistes avec Jacques, Dany et Michel.
Sur Radio Sainte-Afrique.
Donc Jacques, quelle est la dernière fois que tu t'es présenté dans un bureau d'élection et que tu as posé ton bulletin dans l'urne?
Que je suis allé au bureau de vote, j'y vais chaque fois qu'il y a les élections, pour montrer aux gens que je ne suis pas à la pêche, pour accompagner Chantal qui vote, mais je ne vote pas. Mais simplement, voilà, pour signifier aux gens que je ne suis pas d'accord avec leur truc. Et la dernière fois que j'ai voté, ça devait être après mai 68, où il y avait effectivement un référendum, et bien le référendum de De Gaulle, qui avait mis sur le tapis sa légitimité, en même temps qu'une réforme du Sénat. Il y avait plusieurs questions dans le référendum. Il fallait répondre par oui ou par non. Et voilà, j'avais répondu non. Et voilà, c'est la dernière fois où je suis allé.
De quand date ton dernier vote ?
Mon dernier vote, je ne me rappelle plus très bien. J'ai de toute façon très peu voté, puisque aux élections présidentielles, je pense que c'est jamais. Les seuls votes pour lesquels j'ai participé, c'était des votes municipaux, enfin locaux. Et le dernier, il date d'un certain temps, c'était là où j'habitais avant. Et le maire, sur un projet, s'était engagé à ne pas le réaliser, enfin à soutenir les opposants. Un projet complètement décalé, localement, voilà. Et dès qu'il a été élu, il a changé d'avis et le projet s'est fait, il a donné les autorisations, enfin voilà, quoi, il n'a pas tenu parole. C'est un peu ce qu'on reproche à tous les élus, hein, c'est de promettre parce qu'ils veulent être élus et de ne pas après tenir leurs engagements. Donc, j'ai très peu voté et plus j'avance par des discussions, des lectures, des questionnements, maintenant je ne vote plus du tout, quoi. C'est une décision, voilà.
Alors, le dernier vote, c'est drôle parce que du coup, j'ai oublié la date. C'était par rapport au vote contre Jean-Marie Le Pen, donc où j'ai été, comme beaucoup de gens, stupide et été voté pour Chirac. Voilà. Bon, ce qui est fait, fait, voilà. Et je l'explique. À ce moment-là, bon, on est quelques-uns à avoir été collés des affiches contre l'extrême droite à Saint-Afrique. Donc, ce qui me semblait évident pour moi, donc le vote n'était pas du tout utile. Mais bon, comme d'autres amis, il y avait une pression des amis, et c'est le syndrome d'appartenance, je dirais, pour ne pas se couper des gens qu'on aime bien et qui, eux, étaient très, très inquiets, très angoissés. Ce qui n'est pas une excuse pour moi, hein. J'aurais dû dire non, mais bon, j'y étais, voilà.
Et cette fois-ci, si Madame Le Pen, Marine Le Pen est au second tour, tu vas voter ?
Ah ben non, je n'irai plus jamais voter.
C'est quoi qui t'a fait pencher entre ce moment où tu as voté et maintenant où tu votes plus? C'est quoi qui t'a fait dire je n'ai plus envie de voter?
À l'époque, le droit de vote, c'était 21 ans. Et donc, je les avais eus peu de temps avant. Et donc, oui, c'était un peu un dépucelage, on va dire ça comme ça. Mais je me suis rendu compte dès ce moment-là, de toute façon, que les dés étaient pipés. Que les règles du jeu n'étaient pas suivies et reconnues par tout le monde. Et j'ai chaque fois l'impression qu'on me demande « Est-ce que tu veux jouer aux cartes ?» Moi, j'ai le droit de tricher, mais pas toi. Donc, je ne joue pas.
Donc, tu es abstentionniste par choix. Tu n'es pas abstentionniste par rejet de la politique, ni abstentionniste pour aller à la pêche, ni quelqu'un qui se moque de ce qui se passe. Au contraire, tu es très concerné. Et c'est pour ça que tu ne votes pas. Peux-tu nous expliquer ta démarche ?
Bon, déjà, j'aime pas la pêche, donc c'est pas pour aller à la pêche. C'est parce que je ne suis pas d'accord avec un système de représentation. De représentation. Le vote, ça veut dire déléguer mes choix, déléguer mes... Voter, pour moi, c'est donner à d'autres, en quelques minutes, là, donner un choix de société que je ne veux pas, quoi. Je leur fais pas confiance, je n'ai pas envie que quelqu'un prenne en charge ma vie. Mon choix, l'abstention, c'est un choix, et c'est un choix délibéré. C'est presque un système royaliste qu'on a, c'est-à-dire que en quelques minutes, on décide de notre maître, du roi, enfin, de celui qui va gérer nos vies, etc. Et on délègue. Et voilà, donc cette personne entourée de son staff ou voilà, va mettre en place des lois. Quand on est contre, on n'a aucun moyen, aucun. Parce que quand il y a des grandes manifs, on se retrouve avec des CRS. Et que les CRS soient de gauche ou de droite, ils frappent de la même façon. Les gens de gauche les utilisent de la même façon. Les candidats maintenant, les candidats au présidentiel par exemple, ils ne disent pas « on » ou « nous » ou « collectivement », etc. Ils disent « je ferai ceci, je ferai cela, je... » Comment confier un choix de société à une personne qui dit « je » Pour moi, c'est inconcevable. En plus, c'est inconcevable de la confier à des gens qui n'ont rien de commun avec la majorité. C'est des gens riches, des bourgeois, même ceux de gauche, qui ont des moyens autres, qui ne représentent qu'eux-mêmes. Voilà, un autre argument qui me heurte, moi, c'est qu'il existe en France une immunité parlementaire. C'est-à-dire que quand on est élu, on a le droit de ne pas se présenter devant la justice, de repousser, etc. On en est même à se demander si certaines ne sont pas candidats aux élections pour se protéger de leur magouille. Voilà, donc moi je suis contre... D'abord, je m'abstiens, moi, pour le système complet. On aurait des gens honnêtes. On aurait des gens propres sur eux, ce qui n'est pas le cas, mais on aurait des gens honnêtes, je ne voterai pas quand même. C'est le système de mettre mon choix de vie, enfin ma vie, de déléguer les choix de vie qui me concernent, de les déléguer à quelqu'un que je ne connais pas, qui ne met pas en application ce que je souhaite.
C'est quoi l'évolution ?
L'évolution entre les deux. Non, c'est, je pense que justement le fait d'avoir été voté pour Chirac, je me suis posé beaucoup de questions après parce que c'était complètement antinomique par rapport à ma façon de penser. Et donc je pense que ça m'a remis tout simplement sur les rails, c'est-à-dire que c'est complètement stupide, ça n'a aucune utilité. Voilà.
Et ta réflexion sur l'abstention, elle remonte à avant le vote contre Le Pen, Chirac, là, tout ça ou...
Ah oui, oui, bien sûr. Ah. Non, mais j'ai été, quand j'ai eu la possibilité de voter, j'ai été en fait voter à un référendum. C'était le référendum sur la Nouvelle-Calédonie, pour plein de raisons. D'abord parce qu'à cette époque-là, je connaissais des gens du FLNKS qui venaient en France. Aller voter, je trouvais ça quand même stupide d'aller voter pour un territoire dit français qui est à 20 000 km et qui est en fait une colonie française, qui l'est toujours. Hein. Et je trouvais ça aberrant. Et d'autre côté, ça a été pour une fois quelque chose de positif parce que ça a permis de faire sortir de prison des militants FNLKS qui étaient arrivés donc en France en hiver, alors que là-bas il faisait très chaud, en short, en t-shirt, à la prison de la Santé. C'est les prisonniers qui leur ont prêté des vêtements. Parce que voilà, et les faire sortir de prison, je me suis dit au moins ça c'est une bonne cause. Pour le reste, c'était bidon. Pour moi, je suis pas contre le vote. J'ai même fait partie des quelques personnes qui se sont battues à un moment avec le sénateur des Ulysses, socialiste à l'époque, qui était effectivement un des militants socialistes qui se battait pour le droit de vote des travailleurs immigrés. Parce que je pensais avec lui, j'étais d'accord là-dessus, hein, pas surtout, mais là-dessus on était bien d'accord. Je pense que des gens qui vivent en France, qui travaillent en France, qui cotisent en France, ont le droit, un droit comme tout le monde, ils ont les mêmes droits que les autres. Voilà, tout simplement, comme à un moment les femmes ont demandé le droit de vote, elles ont le droit. Une fois qu'on a le droit de vote, on peut le refuser. Tant qu'on l'a pas, on n'a même pas le droit à la parole. Et donc effectivement, l'abstention, pour moi, c'est un moyen de dire non. Bon, aux politiques d'une part, mais aussi au système, parce que le fait d'aller voter, ça veut dire mettre un bulletin dans une urne, ça veut dire qu'on abandonne le peu de pouvoir qu'on a, et on n'en a pas tellement en tant qu'individu déjà, le peu de pouvoir qu'on a à des gens qui vont s'en servir comme ils veulent, voilà, pendant tout le temps de leur mandat, et qui vont curieusement, c'est un peu les mêmes depuis toujours, et si c'est pas les mêmes, c'est leurs enfants, ou leurs filles, leurs fils qui prennent la suite. Comme ça, ils s'aiment bien entre eux, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Hein, je pense qu'il n'y a pas de... Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ce système, quoi.
Tu es de ceux qui pensent que donc voter, c'est cautionner ce système ?
Tout à fait, absolument. C'est donner un pouvoir aux gens sur des promesses qu'ils savent qu'ils ne vont pas tenir, que moi je sais qu'ils ne vont pas tenir, et donc je ne vois pas pourquoi j'irai voter. C'est un leurre. C'est un leurre. Lorsqu'on entendait à l'époque Pasqua dire que les promesses n'engagent que ceux qui y croient, c'est assez net, quoi. C'est assez, assez significatif.
Donc, toi, ton combat politique, ne se limite pas au bulletin de vote, apparemment, mais c'est au quotidien que tu vis cet engagement social, humaniste, politique.
Oui, oui, c'est pas une démission, mais on a l'impression, lorsqu'on vote, qu'on est en démocratie tous les 5 ans, lorsqu'on vote. Et après, ils font ce qu'ils veulent. Donc, c'est pas étonnant que les gens soient déçus. À partir du moment, encore une fois, où on vote pour des idées, et que les gens qui ont promis des réformes ne les font pas, je les cautionne pas, je ne suis pas d'accord. Quand on voit par exemple qu'ils estiment que les abstentionnistes pour les présidentielles tourneront autour de 45%. Ce qui fait que celui qui sera élu avec 50% des voix, il n'aura que 50% des 55 votants. Donc il ne représente rien pour moi. Mmh. Voilà. Ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs, dès qu'ils sont élus, la cause de leur popularité baisse, et pour cause. T'as qu'à voir dernièrement Trump, il n'a plus que 30% des gens qui croient en lui. Mmh. Et pour cause, ça me paraît évident. Et en plus de ça, la plupart des gens qui vont voter maintenant, ils ne votent pas pour, ils votent contre. Et ça, ce n'est pas un choix. Imagine, tu vas au restaurant, et tu rentres au restaurant parce que dehors, tu as vu le menu et qu'il te plaît. Tu rentres et quand tu demandes quelque chose, tu dis « Non, mais ça, on ne le fait pas. Non, ça, on ne l'a pas non plus. Non. » Et donc, tu es otage. Je refuse d'être un otage.
Fais-tu une différence entre le vote blanc, le vote nul et l'abstention ?
Oui, moi j'en fais une qui est fondamentale. En fait, le vote blanc ou le vote nul, c'est-à-dire qu'on met le doigt dans l'engrenage, on accepte, on reconnaît le vote, on dit bon ben voilà, les candidats présents ne me conviennent pas, donc je mets un vote blanc ou je mets, mais on met le doigt dans l'engrenage, c'est-à-dire on est d'accord pour le système. Moi, par exemple, mon abstention à moi, elle est de refus de ce système électoral.
Moi, que les gens aient voté, je suis pas agressif du tout par rapport à ça. Je pense qu'ils ont, c'est leur choix. Par contre, j'aime pas trop qu'on m'agresse sur le fait que je ne vais pas voter. Mais moi, je respecte tout à fait. Si les gens ont envie de rentrer dans la cabane de foire et une fois qu'ils se sont fait avoir de sortir en disant que c'était vachement bien, on offre aux gens un jeu, là, un grand jeu, puisque la télévision fait passer d'un seul coup 5 candidats sur une chaîne privée. Ce qui est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'on s'est permis de faire une pub énorme, une chaîne privée. Là, il va y avoir, après, c'est 11 candidats d'un coup. Enfin, moi, j'apprécierais si ça se passait en extérieur et qu'on ait chacun des boules à balancer sur la tête des... Voilà, on verrait bien celui qui tombe le premier ou le dernier, quoi. Chamboule tout, ça serait bien. Mais là, franchement, je vois pas l'intérêt, quoi. Si ce n'est que les gens... Tout le monde a pu parler de Poutou parce qu'il n'est pas arrivé en costume et qu'il s'est mis en dehors de la photo. Je trouve ça tout à fait bien de sa part, c'est pas le problème. Mais si on en est à aucun moment, on parle de la réalité des choses, des programmes réellement, les gens les connaissent pas, les connaîtront pas. Et quand ça va arriver sur leur truc, ils les liront pas, ils en auront ras-le-bol. Voilà. Et puis ils sauront bien que c'est du vent. C'est un vaste foutoir, une vaste rigolade, quoi.
Le dimanche que la gouvernance a choisi, à l'heure qu'elle a fixée, je m'amène au bureau de vote. Jusqu'ici, tout vautard que je sois, je ne suis pas plus souverain qu'un mouton qu'on écorche. Attendez, ça va venir. Dans la tripotée de bulletins dont les distributeurs m'ont farci, j'en pige un que je roule en papillote. Pourquoi celui-là plutôt qu'un autre, je n'en sais foutre rien. Le coco dont le nom est dessus m'est inconnu. Je n'ai pas été aux réunions, ça me dégoûte. Je n'ai pas lu les affiches, elles sont trop canulantes. Qu'est-ce que ça fait ? J'ai confiance. Mais non d'un foutre, ma souveraineté est toujours pucelle. Je n'en ai pas encore joui. Quoique j'ai mon bulletin dans les pattes, tout prêt à être enfourné dans l'urne, je ne suis pas encore souverain. Je ne suis qu'une belle pochetée que la gouvernance tient sous sa coupe, que les patrons exploitent ferme et que les sergeaux font circuler à coups de renfoncement quand il m'arrive d'être attroupé. Ne désespérons pas,
je serai souverain. J'avance. Enfin, mon tour arrive. Je montre ma carte, car je suis en carte. On ne peut pas être souverain sans être en carte. Maintenant, j'ai des fourmis dans les doigts de pied. C'est sérieux, évidemment. Le moment psychologique approche. J'allonge la patte, je tiens ma papillote entre les deux doigts, le pouce et le chahuteur. Et là, reluquez ma tronche. Quel dommage qu'il n'y ait pas un photographe. Une, deux, je vais être souverain. Juste à la seconde précise où j'ouvrirai mon pouce et mon chahuteur, juste au moment où la papillote sera lâchée, j'userai de mes facultés de souverain. Mais à peine aurai-je lâché mon chiffon de papier que, Bernic, il n'y aura plus rien. Ma souveraineté se sera évanouie. Dès lors, me voilà redevenu ce que j'étais il y a 2 secondes, une simple niguedouille, une grande pochetée, un vautard cucu, un cracheur d'impôts. Sur ce, la farce est jouée, tirons le rideau. J'ai été naturellement et réellement souverain 1 seconde. Je le serai le même laps de temps dans 5 ans d'ici. Or, je ne commence à user de cette roupie souveraine qu'à l'âge raisonnable de 18 ans. C'est un acte si sérieux qu'il y aurait bougrement de danger à me le laisser accomplir plus tôt. C'est les dirigeants qui le disent et eux, ils s'y connaissent. Une supposition tout de même. Que je moisisse sur Terre jusqu'à la centaine. Alors, le jour où j'avalerai mon tire-pied, j'aurai donc 80 années de souveraineté dans la peau. Raison d'une seconde tous les 5 ans. Ça nous fait le total faramineux de 20 secondes. Pour être large, en tenant compte des ballottages, des élections municipales, des trous du cuterie électorale qui pourraient se produire, allez, mettons, 5 minutes. Ainsi, en 100 ans d'âge au grand maximum, en ne laissant passer aucune occasion d'user de main droite, sur mes 80 années de souveraineté prétendue, j'aurais juste eu 5 minutes de souveraineté effective. Eh ben, les bons bourgs, voulez-vous m'indiquer une bourde plus gigantesque, une fumisterie plus carabinée, une couleuvre à avaler plus grosse que le serpent boa de la souveraineté populaire. Émile Pouget, l'almanach du Père Pénard, 1896.
Je vous ai compris, votez pour moi, pour que notre patrie soit plus belle. Que les Français soient aussi beaux que moi.
Dissonance, témoignage d'abstentionnistes avec Jacques, Dany et Michel.
Sur Radio Sainte-Afrique.
Voter, c'est un droit ou un devoir ?
Alors, c'est un droit que effectivement des gens ont revendiqué et pour lequel des gens se sont battus. Ça deviendrait un devoir si effectivement tout le monde jouait les jeux, mais ce n'est pas le cas. Et ça serait un devoir si on tenait compte du vote blanc. Toujours pareil. Sans ça, les abstentionnistes, en grande partie, n'y vont pas parce que le vote blanc n'est pas reconnu. Parce que parmi les votants, il faut savoir que lorsqu'on dit tant de votants, on ne compte pas aussi les votes blancs. Les abstentionnistes ne sont pas comptés, les votes blancs ne sont pas comptés. Moi, je suis pour que ça soit obligatoire, mais qu'on compte les votes blancs.
Mais je pense aussi qu'il y a un tel matraquage, une telle pression depuis toujours, comme quoi il faut voter, le droit de vote, on l'a gagné, les gens l'ont gagné, enfin le droit de vote, voilà. On appelle même ça le droit de vote et du citoyen, le droit du citoyen, enfin exercer ton droit de citoyen. Mais moi, pour moi, c'est pas exercer un droit de citoyen. La preuve, c'est que des gens comme je sais pas, Hitler, Trump, des gens comme ça, ils sont élus. C'est pas un signe de démocratie. Il y a plein de pays dans le monde où on a instauré des élections. Ça ne règle aucun problème. Les élections ne signifient pas forcément démocratie. C'est pas, pour moi, c'est absolument pas lié. C'est absolument pas un critère de démocratie. La démocratie, ce serait que les décisions viennent d'en bas, viennent du peuple. Peuple, ça me plaît moyen, mais viennent des gens, quoi. Et des groupes d'individus, enfin de personnes qui décideraient ensemble de qui connaît mieux les besoins en écologie, en repas biologiques pour les cantines que le groupe qui s'occupe des cantines. Enfin voilà.
Donc ton moyen d'action, c'est ne pas aller voter. C'est-à-dire que tu manifestes ton désaccord.
Oui, c'est pour moi une manifestation d'un désaccord. Moi, à la limite, je pourrais aussi dire que je vais à la pêche. Moi, ça ne me pose pas de problème, il n'y a pas d'obligation. On n'a aucune obligation du moment qu'on est respectueux des autres et que les autres vous respectent. Il n'y a aucune obligation, quoi. Je veux dire, c'est quoi ce système qui obligerait les gens ouais, Monsieur Mélenchon voudrait, par exemple, que le droit de que le vote blanc soit reconnu, mais que les gens soient obligés d'aller voter. Voilà, bon, Monsieur Mélenchon, se réclamant de la révolution bolivienne, étant un soutien inconditionnel, est un soutien conditionnel de Monsieur Chavez, qui est quand même un antisémite et l'ami d'Ahmadinejad à une période. Moi, il ne me fait pas rêver, surtout quand je vois que maintenant, il distribue des centaines de drapeaux bleu, blanc, rouge, donc à Marseille, entre autres. Ça ressemble étrangement, quand même, je vais choquer, au Front National. Voilà, il est populiste au possible.
Et qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent « Mais alors, donc, tu n'auras pas à râler si jamais après tu as Fillon, si tu as Le Pen, si tu as les fachos dans la rue ?»
Oui, bah, ils ont le droit de penser ça. Je ne sais pas ce qu'ils feront de plus que moi. J'aimerais bien savoir ce qu'ils feront de plus que moi. Personnellement, je suis suffisamment descendu dans la rue, je suis même collé d'affiches, distribué de tracts pour ne pas me sentir du tout, par rapport à ça, agressé. Quoi. C'est leur problème. Quoi. Mais j'aimerais pas, je ne sais pas ce qu'ils feront de plus. Quoi. Ils diront « Ah ben oui, mais nous, on a voté Macron. » Ah oui, c'est vrai qu'il est fort sympathique, cet homme qui vient des banques, qui est pour dégager Notre-Dame-des-Landes, qui est pour le tout nucléaire, etc. Bon, ben oui, oui, on peut, effectivement. Ou le moins pire, quoi. Ils essaient de voter pour Poutou. Ben, Poutou. Par exemple, ou la personne qui se présente pour lutte ouvrière, c'est voter pour les trotskistes. Alors, le problème, c'est qu'ils n'expliquent jamais ce que c'est que le trotskisme aux gens. Donc, les gens en restent à l'imagerie de Poutou avec un petit nom sympathique. Mais le trotskisme, ce n'est pas ça. La chance du trotskisme, c'est que Staline a fait tuer Trotsky. Voilà. Mais il faut savoir que Trotsky, avant, avait fait descendre les Mensheviks ou Lénine, avait ensuite fait tuer les marins de Kronstadt qui demandaient simplement, tout simplement ce que Lénine avait dit, tout le pouvoir aux soviets. Ils se sont fait décimer les marins de Kronstadt, ils étaient pourtant communistes. Puis ensuite l'armée noire de Makhno qui luttait contre Denikin et les armées du tsar. Donc c'est ça le trotskisme. Donc quand même, puis se réclamer de quelque chose qui n'a pas bougé, vraiment c'est...
Nos cœurs battent au rythme de la marée. Reste la marée. Reste la marée. Nos rêves percent le voile et je me tais. Reste à marier. Reste à marier. Mes pas perdent le sens du sentier. Reste à trouver. Reste à trouver. Mes mains touchent l'eau de la rosée. Laisse-la rosée. Laisse-la rosée. S'efface au pas des années. Reste des années. Reste des années. Tes lèvres, mes fleurs, ma bien-aimée. Ma bien-aimée. Ma bien-aimée. Les feuilles tombent et je m'en vais. Reste, je m'en vais. Reste, je m'en vais. fleur, ma bien-aimée, ma bien-aimée, ma bien-aimée. Les saisons passent, je reviendrai. Reste la marée, reste la marée, reste la marée. La marée, reste la marée, reste la marée, reste la marée.
Dissonance, témoignage d'abstentionniste avec Jacques, Dany et Michel.
Le risque du Front National, c'est pas moi qui le mets en place, c'est pas moi qui le développe, c'est pas moi en m'abstenant qui fait que le Front National se développe. Le Front National, il se développe à cause des politiques qui ont été faites jusqu'à maintenant, de droite et de gauche. Et c'est à cause du chômage, c'est à cause de plein d'autres éléments. C'est pas moi en m'abstenant qui développe le Front National. Et après, bon, enfin, il me semble que ce serait donner trop de chiffres et de pourcentages et de choses comme ça. Mais il est très facile de faire des recherches et de voir que le Front National, sa bête noire, c'est l'abstention. Et que quand les gens votent massivement, c'est là que le Front National est élu. Chaque fois que le Front National a gagné, le taux d'abstention était plus bas que d'habitude. Donc moi, personnellement, en m'abstenant, je n'ai vraiment aucun problème avec la montée du Front National. C'est pas moi qui le fais, pas du tout, du tout. Voilà. Après, les gens pensent ce qu'ils veulent. Hein. Moi, je suis tranquille avec ça. Les gens en pensent ce qu'ils veulent.
Et ceux qui font le lit du FN, ce ne sont pas les abstentionnistes, ce sont tous les gens qui ont présidé jusqu'à présent. C'est eux, sciemment en plus, pour certains, pour faire perdre des voix à l'autre, pour en gagner de l'autre côté. Et donc, c'est pas les abstentionnistes qui font le lit du FN, non. C'est les politiques qu'ils ont menées. Et on veut en plus essayer de nous culpabiliser.
Parce qu'en parlant de Marine Le Pen, ben, ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que quand on nous dit « mais si vous n'allez pas voter, vous faites le jeu du Front National », c'est insupportable d'entendre ça. Alors moi, j'ai des gens que j'aime bien qui le disent, qui me l'ont eu dit, mais non, c'est pas là que ça se passe. Il faut quand même penser que si le Front National réussit ses percées, c'est à cause des gouvernements successifs, des partis politiques successifs qui ne font que mentir aux gens en permanence, en leur promettant monts et merveilles, que bien sûr, ils ne réalisent jamais. Et donc les gens sont une grande partie déçus et vont voter pour une candidate dont on se demande d'ailleurs quelle crédibilité ils peuvent lui donner, mais visiblement ça a l'air de marcher, c'est une espèce d'écœurement, de dégoût contre tout le monde. Et elle se sert de ça, c'est l'écœurement contre tout le monde, elle est très forte là-dessus. Voilà, donc non, j'irai pas voter, non.
Je vais me faire l'avocat du diable. Qu'est-ce que tu dis, par exemple, aux gens qui te disent « Oui, mais quand même, les élections, il y a des gens qui sont morts pour avoir le droit, pour qu'on ait ce droit de voter. »
Et maintenant, je ne suis pas sûr qu'ils aient revendiqué le droit de voter. Ils ont revendiqué pour pouvoir exprimer leurs opinions et qu'on en tienne compte. À partir du moment où on n'en tient pas compte, le jeu, eh ben, il est faussé.
Il y a beaucoup de gens qui disent, je ne sais pas si c'est vrai et je ne suis même pas sûr que ça soit vrai, ils disent donc qu'il y aurait beaucoup de gens qui sont morts dans l'histoire pour qu'on puisse obtenir le droit de vote. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Les gens te disent, ouais, tu te rends compte qu'il y en a qui sont morts pour ce que toi tu ne veux pas faire.
Oui, moi ça me fait rigoler. Alors, il se trouve que j'ai vu, peut-être tu mettras sur internet un peu le lien avec cet historien qui en parle et qui dit que oui, il y a plein de gens qui meurent hélas pour des causes qui ne sont pas forcément les bonnes. Ou qui ne sont pas les nôtres. Et voilà, il est très très virulent dans son attaque là-dessus, en disant qu'après tout, il y a des nazis, des jeunes nazis qui croyaient à leur effectivement idéologique, qui sont morts pour défendre Berlin assiégé. Est-ce qu'on peut, pour ça, se revendiquer de ce genre de choses ? Je ne pense pas. De la même manière, il dit qu'effectivement, il y a peut-être des gens qui sont morts pour demander le suffrage universel à une période où il venait d'apparaître pratiquement, hein, il n'était pas tout à fait. Mais est-ce que ces gens-là, ils seraient d'accord avec nous, avec notre manière de faire le suffrage actuellement ? Est-ce que le fait de mourir pour une cause en fait quelque chose de forcément intouchable ? Non, malheureusement, non. Non, non, on est plein sur cette planète, on n'est pas d'accord avec plein de choses. Il y a des gens qui meurent et on le regrette parce qu'effectivement, on est d'accord avec eux, mais d'autres en face, c'est l'inverse, etc. Ce n'est pas là où ça se passe. C'est un faux débat, ça. Mmh. C'est un faux débat qui, en plus, est manichéen, hein, je trouve. Voilà. Parce que là, c'est un peu... quand même, il y a des gens qui sont morts pour ce droit. Non, 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 c'est pas là que ça se passe. Ouais.
Et pour les printemps arabes où les gens espéraient pouvoir avoir des démocraties, pouvoir revoter, parce que pour revoter, c'était pouvoir s'exprimer. Qu'est-ce que tu en penses ?
Oui, ben, je pense que je pense qu'au départ, c'est pas ce que les gens demandent. C'est ce que certains leaders vont les amener en espérant que ça va fonctionner pour être élus ensuite et récupérer la révolution. Voilà, c'est un peu ça. Je crois que c'est pas les gens, c'est pas ce qu'ils demandaient. C'est pas, ils demandaient le droit à la parole, qu'ils n'avaient pas, le droit à la liberté de s'exprimer, le droit au travail aussi, parce que malheureusement, il y a peu de choses. Le droit à manger correctement, à vivre correctement, à ce qu'on les respecte. Si on leur propose, en leur disant, en leur faisant croire que c'est en allant voter que ça va aller mieux, ben, ils sont aussi naïfs que nous, c'est bien, quoi.
Voter, c'est abdiquer. Nommer un ou plusieurs maîtres pour une période courte ou longue, c'est renoncer à sa propre souveraineté. Qu'il devienne monarque absolu, prince constitutionnel ou simplement mandataire muni d'une petite part de royauté, le candidat que vous portez au trône ou au fauteuil sera votre supérieur. Vous nommez des hommes qui sont au-dessus des lois puisqu'ils se chargent de les rédiger. Et que leur mission est de vous faire obéir. Voter, c'est être dupe. C'est croire que des hommes comme vous acquerront soudain, au tintement d'une sonnette, la vertu de tout savoir et de tout comprendre. Vos mandataires, ayant à légiférer sur toute chose, des allumettes aux vaisseaux de guerre, de l'échenillage des arbres à l'extermination des peuples, rouges ou noirs, il vous semble que leur intelligence grandisse en raison même de l'immensité de la tâche. L'histoire vous enseigne que le contraire a lieu. Le pouvoir a toujours affolé, le parlotage a toujours abêti. Dans les assemblées souveraines, la médiocrité prévaut fatalement. Voter, c'est évoquer la trahison. Sans doute, les votants croient à l'honnêteté de ceux auxquels ils accordent leur suffrage. Et peut-être ont-ils raison le premier jour, quand les candidats sont encore dans la ferveur du premier amour. Mais chaque jour a son lendemain. Dès que le milieu change, l'homme change avec lui. Aujourd'hui, le candidat s'incline devant vous et peut être trop bas. Demain, il se redressera et peut être trop haut. Il mendiait les votes, il vous donnera des ordres. L'ouvrier devenu contremaître peut-il rester ce qu'il était avant d'avoir obtenu la faveur du patron ? Le fougueux démocrate n'apprend-il pas à courber les chines quand le banquier daigne l'inviter à son bureau ? L'atmosphère de ses corps législatifs est malsaine à respirer. Vous envoyez vos mandataires dans un milieu de corruption. Ne vous étonnez pas s'ils en sortent corrompus. N'abdiquez donc pas, ne remettez donc pas vos destinées à des hommes forcément incapables et à des traîtres futurs. Ne votez pas. Au lieu de confier vos intérêts à d'autres, défendez-les vous-même. Au lieu de prendre des avocats pour proposer un mode d'action futur, agissez. Les occasions ne manquent pas aux hommes de bon vouloir. Rejeter sur les autres la responsabilité de sa conduite, c'est manquer de vaillance. Je vous salue de tout cœur, compagnons. Élisée Reclus.
Sûrement à cause de mon foie, que j'ai sensible au moindre émoi, à moins que ce soit ma vésicule, ou bien encore mon trou du cul. Je sens une pulsion colérique me détruire les zygomatiques. J'ai envie de dire des mots salingues pour éviter de tomber dingue devant le spectacle infâme de nos décideurs qui brament leur sermon moralisateur. Ayez confiance, n'ayez pas peur, soyez solidaires, dynamiques, ne fumez pas de haki-que. Entreprenez, investissez, soyez forts et déterminés. Et pour que l'État soit plus balèze, on vous piquera un peu plus de pèse. Nous pauvres cons, on baisse le front et ils organisent l'exclusion.
Entouré de ces pauvres cotons, le grand Mamamouchi nous fourre. Le grand Mamamouchi nous fourre à nous faire exploser l'oignon.
L'univers entier nous envie le talent de nos dirigeants, dont le cerveau la rabougrie ne véhicule que du vent. L'idée de la pensée unique, c'est plus c'est nul, plus je te nique. C'est vous dire la force des concepts qui germent dans leur cerveau inepte. La République sans jeu de mots, ils la prennent pour une pute, lui font des papouilles, des turlutes, et se foutent de guérir ses maux. La trahison de leurs promesses, ils la lui mettent entre les fesses. Le fin du fin pour leur boutique, c'est la renommée médiatique. De leur bouche d'or pointe éructant, leur langue de bois cousue de fil blanc, pour nous déverser un wagon de lieux communs comme des étrons.
Entouré de ces portes cotons, le grand Mamamouchi nous fourre. Le grand Mamamouchi nous fourre à nous faire exploser l'oignon.
J'entends déjà le réquisitoire contre ma chanson dégueuloire. Mais la chanson n'est pas finite, faut récurer le fond de la marmite. Qui sait ce pencu sans façon qui salit les institutions? Qui sait ce malheureux baveux et ses rimes à la mort moelle-neuve? Qui sait ce teigneux anarchique au mauvais goût catastrophique, donnant des armes aux extrémistes, aux factieux, aux pourris, aux fascistes? À vrai dire, j'en ai rien à foire du bon goût et des bonnes manières. Pourquoi nous laisser gouverner par des bouffons crétins fiefés? C'est de ne pas gueuler qu'on crève, on n'a qu'une vie et elle est brève. À cette pensée mes yeux se mouillent, faudrait plus qu'on nous casse les couilles.
Dissonance,
témoignage d'abstentionniste avec Jacques, Dany et Michel.
La société que j'imagine, moi, c'est que les décisions viennent d'en bas, de leur vie, quoi, puisque on s'aperçoit d'ailleurs que tous les problèmes de la vie quotidienne, tous ceux qui mouraient de faim, il a fallu instaurer les restos du cœur, quoi qu'on en pense. Mais bon, il y a eu les restos de cœur qui ont soutenu. L'État n'y est pour rien. Quand les migrants meurent de faim ou sont mal abrités ou tout ça, c'est la solidarité locale qui amène à manger, qui fait passer des gens, qui sauve des vies, etc. L'État, lui, il est contre. En fait, je me dis que les choix de société devraient venir de la base. Moi, dans mon idée, les gens se regrouperaient. Hein. Alors, le niveau, je ne le sais pas bien. Hein. C'est commune, quartier, groupe d'intérêt écologique, enfin, je ne sais pas. Et après, on mandaterait une personne, voilà, en remontant, et cette personne, elle serait mandatée, serait chargée de mettre en application des choix du genre des gens, et non pas, à l'inverse, quelque chose qui nous viendrait d'en haut.
Quel est l'autre système qui pourrait faire fonctionner une société ?
Alors, je pense que c'est quelque chose d'abord, moi, à mon niveau, je n'ai pas de... Je dirais, j'ai des choses contre lesquelles je suis pour et d'autres quand je suis contre, mais je ne me sens pas de dire aux gens ce qu'ils ont à faire, de quel droit je le dirais. Je pense que c'est en parlant tous ensemble, en discutant tous ensemble, qu'on peut trouver ensemble des choses qui nous conviennent à tous. Alors, c'est vrai que c'est compliqué, ça prend du temps, mais bon, ça vaut peut-être le coup, je pense, de partager, qu'il n'y ait pas des gens qui prennent le pouvoir en permanence, quoi. Donc, de mettre énormément de garde-fous, parce qu'effectivement, il n'y en a pas. Il n'y a pas du tout de garde-fous. Hein. C'est-à-dire, quand quelqu'un est député, il peut faire n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Hein. Avant qu'on le foute dehors, il faut vraiment qu'il en fasse une couche, quoi. On voit M. Fillon qui, effectivement, est un personnage assez exécrable, qui a été ministre et qui joue le fier chevalier, bah, il est toujours là, et puis il se présente aux élections comme si de rien n'était. En plus, il joue vraiment... On se croirait revenu au temps de Versailles. C'est vraiment ça, pour moi. C'est les Versaillais. Et le peuple ne comprend rien au fait que nous, on s'engraisse et que lui, il s'amaigrisse. Voilà, c'est un peu ça. Donc c'est vrai que c'est... Je dis pas... J'ai pas de solution. La solution, on l'a tous un peu, quoi. C'est-à-dire... à partir de collectifs, de choses qui se font ensemble, des luttes. Quand les gens sont en lutte, et bien effectivement, il se passe des choses. Hein. Et donc, c'est intéressant de voir comment les luttes se passent, syndicales ou hors des syndicats. Hein. Il y a plein de possibles. Les nuits debout, en mettant des guillemets, parce que moi, je ne suis pas un fan non plus de ce genre de choses. Mais dès qu'il y a une chance que les gens se retrouvent et discutent ensemble, je trouve que c'est intéressant. Après, c'est ce qui se passe. Bon, après, on est d'accord, pas d'accord. Il y a toujours des gens qui viennent, bien sûr, organisés ou pas, pour reprendre le pouvoir. Voilà, c'est toujours ça. On le sait, c'est historique, c'est comme ça, quoi. Mais bon, si on ne fait rien, non plus, on n'a rien. Hein. C'est ça aussi.
Tu évoquais les garde-fous, tu as évoqué Versailles. Et sous la Commune, en 1871, les garde-fous qu'ils avaient imaginés, les communeux, c'était le mandat impératif, avec une mission à accomplir, la personne pouvait être révocable.
Oui, c'est un petit peu ce que propose le syndicat anarcho-syndicaliste de la CNT, qui, voilà, il y a ce genre de choses à la CNT, comme l'équivalent de la CGT en Espagne, c'est-à-dire effectivement que les gens aient un mandat, mais qui n'est pas un mandat de vote, c'est-à-dire qu'un mandat où ils viennent discuter, c'est-à-dire viennent dire ce que et écouter ce que les autres ont à dire, et reviennent ensuite à la base pour évoquer ce qui a été dit, et c'est à partir de ce moment-là seulement qu'on peut les mandater pour aller voter oui ou non. Voilà, donc ça prend plus de temps, bien sûr, mais ma foi, si on a plus de temps pour ça, c'est pas plus mal. Si on travaille en moins d'heures, on peut très bien s'organiser. Ça fonctionne dans certains endroits. Il y a des expériences en Argentine, par exemple, qui fonctionnent avec des gens qui font, qui même tournent au niveau autogestionnaire. C'est-à-dire qu'un instituteur va être instituteur, et puis pendant 3 ans, et puis ensuite, en même temps, il va former quelqu'un qui sera instituteur. Pendant ce temps-là, les autres iront s'occuper plutôt de la partie agricole, etc. On essaye de faire en sorte, bien sûr. Plus le travail va être un peu plus complexe, plus la personne aura une formation, mais il ne restera pas là de toute manière. Et c'est possible, ça marche. Donc, des choses qui paraissent complètement clivées, ben non, ça peut fonctionner. Ouais, c'est vrai que moi, je suis assez surpris que dans les médias, et pas de façon négative, c'est-à-dire, bon, on en parle de façon négative, mais de façon positive, c'est-à-dire qu'on reconnaît d'un seul coup que les gens, effectivement, n'étant pas d'accord, vont s'abstenir. Ça fait peur aux politiques. Hein. Alors, quand on dit, justement, oui, ça fait le jeu du Front National, le Front National appelle à voter. Hein. Il a Il a envie de légitimité, c'est très clair. Il n'a surtout pas d'abstention. Donc, c'est un peu comme Erdogan en Turquie, quoi. C'est tout à fait opposé à l'abstention. Plus il y a de gens qui votent, plus il a de chances d'être reconnu pour sa dictature qu'il est en train de mettre en place. Donc, alors, est-ce que les gens prennent conscience? Je pense que, oui, il y a une partie des gens qui prennent conscience.
Donc, pour les élections en cours, tu n'attends rien?
Oh ben non, là, moi, je n'attends rien parce que, comment dire, c'est quelque chose, un grand raout, là, qui est organisé, qui est phagocyté, qui est préparé par les médias, certains partis politiques, certains, comment dire, même, je sais même pas si c'est les partis en entier, certains états-majors de partis et tout. Donc, en fait, ils essayent de convaincre, de manipuler, tout ça. Mais moi, ça ne me convient pas du tout. Je suis persuadée qu'on devra continuer à se battre, à manifester, à faire pression, et certainement encore plus contre l'extrême droite de Le Pen et contre la droite extrême de Fillon.
Donc j'ai un texte de René Pons qui va, je crois, 85 ans maintenant, ce qui ne le rajeunit pas, et moi non plus finalement, parce que ça fait assez longtemps qu'on se connaît. Et donc René Pons est écrivain, il vit donc dans le sud de la France aussi, écrivain, poète, il a eu de nombreux livres publiés, que ce soit chez Gallimard, chez Actes Sud et chez plein d'éditeurs de poésie. Il a fait à peu près plus de 200 livres avec des artistes. Et donc, pour une exposition, je lui avais demandé un texte qui tombe très bien, puisque c'est sur les élections. Donc, je me permets de le lire, en respectant sa ponctuation, hein, si je lui envoie qu'il ne respecte pas. Nous vivons le temps de la confusion. Un temps où les mots n'ont plus leur sens véritable et sont réduits à leur propre caricature. Démocratie est l'un d'eux. Vidé par les pouvoirs médiatiques, politiques, économiques, celui-ci régentant les autres de toute sa substance. Le peuple, hagard, n'est plus un rassemblement de citoyens, mais un troupeau de consommateurs. Sans cesse aveuglé, il ne pense plus, et comme le chien de Pavlov, salive sans penser à la moindre sollicitation. Les élections ne sont plus pour lui qu'un spectacle où les battleurs les plus habiles, c'est-à-dire les plus menteurs, dont le but est bien plus de prolonger leur mandat et les avantages qui s'y rattachent que de servir la collectivité, obtiennent la victoire, quelles qu'en soient les conséquences, comme si, dans l'esprit des gens, où triomphe l'éphémère du hic et nunc, le mot futur qui demande un minimum d'imagination avait été rayé. Dès lors, pour résister à une telle situation, et si dérisoire à première vue que soit cette résistance, il faut refuser de jouer le jeu des partis et de leur affrontement bavard, dans des combats électoraux à l'avantage de marionnettes étiquetées, dont les ficelles sont tirées par des personnages pour qui les mots rentabilité et profit sont la seule religion. Il ne faut pas succomber à la culpabilisation que tente de faire peser sur chacun d'entre nous des obsédés civiques sans imagination. Il faut refuser de participer à un simulacre de démocratie, et pour ce faire, il faut considérer le vote comme nul et non avenu. À vouloir continuer à jouer un jeu démocratique devenu jeu de dupes, on continuera à légitimer dans leur environnement n'importe quelle entreprise. La mécanique du vote, aujourd'hui, est une entreprise de desservelage, rien de plus. Car lorsqu'une seule voix, déguisée en deux, se fait entendre, où se trouve la dialectique, cette joute sans laquelle aucun progrès ne peut avoir lieu.
Dissonance
sur Radio Saint-Afrique.
Tu te sens concerné?
Ben, au début, comme tout le monde, j'en avais rien à battre, la politique, tout ça, et puis c'est quand j'ai vu les Jamel Debbouze, les Joestar et leur collectif pour qu'on aille voter. Ça m'a fait réfléchir, et franchement, ils ont raison.
Leur mère, ils ont raison.
Mais c'est important, c'est ça la démocratie, c'est quand on a notre mot à dire.
Et le Père Noël, tu y crois? Toi, quand on dit qu'il descend par la cheminée, tu sais que c'est pas possible, vu qu'il n'y a pas de cheminée dans les HLM. Mais tu vas quand même l'attendre devant le vide-ordure, des fois qu'il arrive à se faufiler. Et s'il ne ramène que des ordures et des cafards dans sa hotte, tu dis chouette, des cadeaux. Ta démocratie, c'est pareil. On vous l'a fait gober à toutes les sauces et vous y croyez. Et vous en démordez pas.
Ouais, mais au moins on participe à la politique du pays. C'est ce qu'a dit Jamel. Si on s'occupe pas de la politique va s'occuper de nous.
On fera mieux de s'occuper des politiciens d'abord, et des financiers, et de la mafia des multinationales. Tu sais quoi?
Non, et toi?
Je sais pas grand chose. Je lis presque rien, mais faut pas être un génie pour comprendre que le vote c'est un attrape-nigaud. Depuis le temps que les gens vont aux urnes, si ça avait une utilité, ça se saurait. Est-ce qu'ils vivent mieux les voteurs? Est-ce que leur existence change après avoir été aux urnes?
Mais au moins ils s'expriment et ils peuvent choisir leur candidat.
Tu sais quoi?
Non.
L'autre jour, je mate un épisode des Simpsons. Et là, on voit Homer, enfant, qui regarde la télé. Et en voyant un ancien président des USA, il dit à son père « Quand je serai grand, je veux devenir président des USA. » Et son père lui répond « Espèce d'âne, tout le système est organisé pour que des gars comme toi ne deviennent jamais président. T'as qu'à regarder les Simpsons au lieu d'écouter Joe Star. T'apprendras plus de trucs sur la politique. »
T'es chelou, toi. C'est justement si on va tous voter qu'on peut changer les choses.
Ce que je vois, c'est que grand-père Simpson, il est moins con que toi. Le système est organisé pour que rien ne change. Et le vote, c'est le meilleur moyen de faire croire aux gens qu'ils ont le pouvoir de faire changer les choses, alors qu'il sert justement à les stabiliser. Quand tu votes, tu dis « Ouais, je suis d'accord avec le système. Il me nique, mais j'y adhère et je le cautionne. »
Ouais, mais si tu votes pas, ben tu fais rien.
Si, je conteste, je dis non.
Et si on faisait tous comme toi?
J'aimerais bien voir ça. Parce que ça, ça remettrait leur système en cause, puisque tout le monde le rejetterait en s'abstenant. Et on devrait tous aller à la pêche ce jour-là.
Et alors, c'est quoi ta solution?
Se débarrasser du pouvoir.
Toi, t'es vraiment une marrante, et tu vas faire comment?
J'en sais rien. Faudrait déjà qu'on change nos mentalités, qu'on se sente capable de prendre la place du pouvoir, et construire autre chose ensuite. Parce que les maîtres voudront toujours s'approprier le pouvoir. Nous, on veut juste se réapproprier la vie. Et depuis le temps qu'on nous éduque à être dirigés, on tend gentiment le cou pour qu'on nous mette un collier. On se le met même tout seul maintenant.
Ouais, mais moi, je comprends mieux Joe Star que toi. Au moins, lui, c'est clair ce qu'il dit. Enfin, si on veut. Toi, tu pars en yuck, cousine.
De toute façon, on pourrait encore parler des heures et des heures. On ferait pas avancer les choses. Toi, tu iras voter, content de montrer tous tes papiers, citoyen de la cité. Et moi, je continuerai à croire à la révolte plutôt qu'au vote. Il y a les démocrates et les hommes libres. C'est pas la même espèce d'homme. C'est ce qui nous différencie. Toi, tu penses que le vote, c'est l'aboutissement ultime de la liberté, qu'il n'y a rien au-delà. Moi, j'espère qu'un jour, on ira au-delà, justement, qu'on inventera autre chose.
Fred Maurice, La malédiction du béton, édition Chandorty. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission en vous rendant sur le site internet de Radio Sainte-Afrique, page Dissonance. Vous y trouverez les références des textes, des musiques et des chansons entendues, ainsi que des liens qui complètent cette émission. Cette émission sera rediffusée lundi 24 avril à 20h et mercredi 26 avril à 11h.
Merci pour votre écoute. Au mois prochain.
Salut et fraternité.
La voisine arrive nous autres, pension d'avoir 12 enfants, pour changer son fusil d'épaule, depuis qu'elle en a autant. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre casser le cou. Quand le patron te raconte que t'es adroit et gentil, sois sûr que t'es le nigo qui fait marcher son bateau. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre casser le cou. Il est joli, il est riche, il est poli. Mais une chose l'ennuie, c'est son valet, quel génie. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. L'argent est au bas de l'échelle et le talent part en haut. C'est pourquoi personne en haut, pourtant la vue est plus belle. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Parce que j'avais pas de manteau, j'ai pris la peau de mon chien. Tu vois qu'il n'y a pas plus salaud.